En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, toujours la plus belle des radios valdoisiennes en Ile-de-France, à écouter en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+, et sur notre appli Android. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue dans l'économie en direct, l'émission qui ouvre son micro aux acteurs de terrain, qu'ils soient entrepreneurs, responsables publics ou professionnels de la sécurité. Sujet sensible, sujet brûlant, la question de l'insécurité est aujourd'hui au cœur des préoccupations des Français. Pour en parler, ce matin, vendredi 27 février, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Lauze, commissaire, désormais secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin chez IDFM Radio. Alors que j'avais eu le privilège de vous recevoir lorsque vous dirigiez la police du Val-d'Oise et que vous aviez écrit Le Testament d'Alexandrie, un roman magnifique, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver à l'occasion de la parution de votre nouveau livre. Enfin, il est paru depuis déjà quelques mois, hein, mais bon, voilà. Donc ce livre « Insécurité, stop à la descente aux enfers » paru aux éditions Fayard. Un constat alarmant de la situation sécuritaire en France, avec des propositions de pistes d'action concrètes pour enrayer ce que vous considérez comme une dégradation continue du climat de sécurité, mais aussi un livre, outre les chiffres accablants, les dysfonctionnements systémiques, son réalisme parfois dur, votre colère, un livre qui reste empreint de tendresse, d'émotion, qui se lit d'une seule traite et dont je ne peux que recommander la lecture à nos auditrices et auditeurs. Alors, merci. Nous allons prendre le temps de le décortiquer, mais juste avant, je vous propose de retrouver notre expert en géopolitique valdoisien, Gérard Vespierre, que vous connaissez et qui, toujours fidèle à IDFM Radio, nous livre régulièrement sa chronique « Décryptons le monde » dédiée aux affaires internationales.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Bonjour Gérard.
Bonjour Jacqueline, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent et bien sûr à votre invité.
Bonjour Gérard.
Merci Gérard. Alors Gérard, vous avez intitulé votre rubrique ce matin « L'Iran de tous les dangers ». Ce pays attire hélas tous les regards par les opérations déstabilisatrices et sanglantes qu'il mène bien au-delà de ses frontières, au Liban, en Syrie, en Irak, à Gaza, contre Israël, mais également contre son propre peuple, pardon, comme nous venons tous de le voir. Pourquoi ce titre, l'Iran de tous les dangers ?
Jacqueline, l'analyse des événements qui se déroulent au Moyen-Orient depuis le 7 octobre 2023 et l'attaque d'Israël préparée par Téhéran à partir de la bande de Gaza fait apparaître une stratégie de réplique en trois phases. Première phase, les réponses israéliennes contre les alliés de Téhéran, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis. Il faut inclure la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie, autre allié historique du régime iranien. Puis est intervenue une deuxième phase avec l'intervention militaire conjointe d'Israël et des États-Unis, cette fois directement sur le territoire de la République islamique d'Iran en juin 2025. Ces bombardements appelés « guerre 12 jours » ont vu la destruction d'une partie des installations nucléaires, des dispositifs militaires classiques également, et l'élimination de plusieurs centaines de cadres militaires et scientifiques. Fin décembre, début janvier, nous avons vu la troisième phase, la révolte de la population pour des raisons économiques et politiques réclamant la chute du régime. Cette sanglante révolte a porté depuis l'intérieur un autre coup à la République islamique d'Iran. Comme le disent ses adversaires, il ne reste maintenant que la tête du serpent. Ou, autre formulation, la fin du régime est inévitable. La question qui se pose maintenant est donc, les derniers coups extérieurs et intérieurs vont-ils être portés pour décapiter le serpent ? Nous sommes donc face à une totale incertitude et à une grande amplitude de conséquences, d'où ce titre, l'Iran de tous les dangers.
Alors, effectivement, vous nous décrivez un resserrement politique et militaire méthodique autour du régime iranien depuis plus de 2 ans, mais des négociations continuent de se dérouler entre Téhéran et Washington. La mise en œuvre des moyens militaires américains très massifs autour de l'Iran pourrait donc être évitée.
Vous avez raison, Jacqueline. Pourrait être évitée, car n'oublions pas que juste avant les 12 jours de bombardement de juin dernier, des négociations se déroulaient aussi entre Iraniens et Américains, et déjà dans le sultanat d'Oman. On peut ajouter que les points stratégiques de négociation sont nombreux. La situation nucléaire, la question balistique et l'assistance militaire et financière de Téhéran à ses alliés. Donc, le nombre des sujets de négociation augmente aussi le nombre de possibilités d'accord. Mais tout dépend alors de la flexibilité que les parties sont prêts à accepter. Un exemple, les États-Unis vont-ils accepter un assouplissement de leur demande initiale de zéro enrichissement d'uranium ? L'accord international conclu en 2015 qu'ils avaient signé portait sur un pourcentage de 3,67, suffisant pour les applications civiles de production d'électricité et les applications médicales. Washington avait déjà accepté ce niveau, pourquoi le refuser maintenant ? Les positions et décisions des États-Unis apparaissent donc essentielles.
Alors, à ce sujet, quels pourraient être donc les objectifs de Donald Trump et quelles sont les contraintes auxquelles il pourrait être soumis ?
Vaste question. Dès lors que vous mentionnez le nom du président actuel des États-Unis, non pas parce qu'il est imprévisible, non, en réalité, il est plutôt très mobile, car un certain nombre de contraintes s'imposent à lui. En outre, quand on utilise la force militaire, et surtout américaine, cette dernière impose aux décideurs sa rigueur dans la préparation et dans les opérations. Sur le fond, il est l'homme des rapports de force, mais il n'est pas véritablement l'homme de la force, l'homme de la guerre. Il est l'homme des coups, des opérations, à l'image de l'enlèvement du président Maduro au Venezuela et de l'intervention en Iran l'an dernier. Les bombardiers furtifs venus des USA ont lâché leurs bombes et sont retournés à leur base 37 heures plus tard. Caracas et Téhéran, l'an dernier, en quelques dizaines d'heures, tout a été terminé. Je serais tenté de dire que face à l'Iran, cette fois, dans les conditions actuelles, après quelques dizaines d'heures d'opération, tout commencerait. Il s'ajoute à la situation politique iranienne, l'impact sur le marché mondial du pétrole. Effet papillon, comme l'on dit, un bombardement à Téhéran peut enflammer le marché le plus important de la planète, impactant le prix du carburant à la pompe pour les lecteurs américains, entre autres. Terrible contrainte pour le pouvoir politique à 7 mois d'élection cruciale de mi-mandat qui s'annonce très difficile en novembre pour Donald Trump.
Gérard, en dehors de l'impact du prix de l'essence sur les consommateurs, ne pourrait-il pas y avoir d'autres effets d'une éventuelle intervention militaire américaine en Iran ?
Toujours, Jacqueline, dans le registre de l'impact sur le prix du pétrole, une hausse qui pourrait être même de 20 ou 30% par rapport au prix actuel, déjà en hausse d'ailleurs, aurait un impact très positif pour la Russie. Cela viendrait renflouer les caisses du ministère des Finances qui a vu ses recettes diminuer de 24% l'an dernier à cause du cumul de la baisse du prix du pétrole, des sanctions et d'une croissance descendue à 1%. Aider la Russie à financer son effort de guerre n'est pas la meilleure orientation quand on veut forcer le Kremlin à s'asseoir sérieusement à la table des négociations. On peut percevoir à travers cette analyse que le nombre de facteurs incitant à la retenue n'est pas négligeable. Le mois de mars devrait apporter une réponse à toutes nos interrogations. Mais faisons attention, Mars, dans la mythologie, n'est-il pas le dieu de la guerre ?
Ah ah ah, merci Gérard pour cette analyse, comme toujours, très claire et structurée. Nous avons quand même un double espoir, hein, difficilement conciliable, celui de la paix et celui de la libération du peuple iranien. Merci, c'est ainsi que se termine votre rubrique « Décryptons le monde ». Alors, je me tourne vers Frédéric Claus. Peut-être, Frédéric, avez-vous une question à poser à Gérard ou pas forcément ?
Oui, moi je m'interroge sur la réaction de la Russie. La Russie vient de perdre le Venezuela, qui était une véritable station-service pour elle, et un point d'entrée dans toute l'Amérique et de subversion. Elle va probablement perdre également Cuba, qui est en train d'être asphyxiée. Elle a perdu le régime bas-alouite de Bachar el-Assad. Donc elle perd ses pions petit à petit. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle peut se permettre, sans rien faire, même si elle est embourbée en Ukraine, éventuellement de perdre l'Iran, qui lui fournit des armes, un véritable soutien dans tous les domaines. Est-ce qu'elle peut ne pas réagir ?
Gérard ?
Bien, elle a commencé à réagir de façon très timide, effectivement, avec des manœuvres navales, avec les forces navales des gardiens de la Révolution. Je pense qu'il n'y avait seulement qu'un bâtiment. Et effectivement, les pions extérieurs de la Russie sont perdus les uns après les autres. Et on s'aperçoit que la Russie n'est pas une puissance mondiale. Mmh. Elle reste une puissance continentale près de chez nous, mais vis-à-vis de ses capacités de projection de forces militaires, elle n'en a plus les moyens. Nous sommes très très loin avec la Russie actuelle de l'URSS d'antan, qui effectivement avait pris le Cuba et avait intervenu massivement en Angola dans les années 70 avec des forces de projection militaire marine impressionnantes. Donc la Russie actuelle est réduite maintenant à son précaré continental. C'est une révélation malgré l'existence d'accords stratégiques entre la Russie et l'Iran.
Merci Gérard, ça fera l'objet peut-être d'une prochaine chronique alors. Merci à vous. Je précise à nos auditeurs que qu'ils peuvent retrouver tous vos écrits et vos interventions sur votre site www.lemondedécrypté.com. L'abonnement y est gratuit. À bientôt Gérard pour de nouveaux décryptages.
Merci Jacqueline.
Merci, à bientôt. Au revoir. Un peu de musique avec Francis Cabrel qui nous accompagne avec son titre « Tout le monde y pense ».
Tout le monde y pense. Les hommes, les anges, les vautours, y a plus de distance. Personne qui a les bras trop courts, tout le monde espère. Même à l'arrière des arrières-cours, tout le monde veut son billet retour. D'amour, 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 son éclat de chance. Celui qui vous brûle vous inonde, mais le ciel s'en balance. Puisqu'il n'y en a pas pour tout le monde, il y a des gens plein les urgences. Sous les lumières des abat-jours qui attendent leur billet retour. D'amour, 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 d'amour.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio, une édition spéciale dans laquelle j'accueille Frédéric Claus, commissaire, spécialiste des questions de sécurité et de prévention, auteur du livre « Insécurité, stop à la descente aux enfers » paru chez Fayard. Frédéric, donc encore merci d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre aujourd'hui ?
je dirais, c'est un livre écrit avec les tripes, quand même de la colère froide.
Oui.
En me disant que depuis ces années, ces décennies, la situation en matière de sécurité et de justice, parce que tout est lié, s'est profondément dégradée et ça affecte la qualité de vie des Français. Et c'est pas normal, c'est absolument anormal.
Est-ce que votre position de secrétaire général a favorisé une certaine liberté d'écriture ?
Oui, ça a favorisé une certaine liberté d'écriture, puisque je n'aurais pas pu écrire ce livre si j'avais pas l'autonomie, c'est pas un totem de liberté absolue, que procure la situation d'être secrétaire général du syndicat des commissaires. Mais je crois pouvoir dire que quelque part, sur les 151 000 policiers, je ne m'érige pas en porte-parole, mais pratiquement tous partagent mon constat et me font savoir chaque semaine des policiers de tout grade qui sont contents que j'ai pu écrire ce livre, parce qu'il n'y a pas simplement que de la colère et l'addition de constats déprimants, il y a aussi des propositions.
Absolument, oui. Alors, je vous propose de reprendre un petit peu chronologiquement votre ouvrage. Il commence par un épisode tragique qui a profondément marqué l'opinion publique. Je parlais du meurtre de Philippine violée par un individu en situation d'OQTF. Vous exprimez votre colère et votre sentiment que nous sommes chez les fous. On peut revenir sur ce moment ?
Bah oui, c'était à Taverny, donc en 2019, un individu mineur... si tant est qu'on le sache, hein, puisqu'on ne sait pas qui rentre sur notre territoire, c'est un gros problème. Si les gens sont mineurs, majeurs, les fameux mineurs étrangers isolés, qui rentrent sur le territoire, qui est marocain, qui a 17 ans, qui rentre illégalement. Déjà, qui aurait dû être reconduit à la frontière dans un état normal. C'est pas une question d'humanité avec un grand H, dans la mesure où le nombre est tel et ça aurait dû se passer comme ça, et déjà premier problème. Cet individu viole près de Taverny une jeune fille extrêmement courageuse qui s'en sort grâce à une maîtrise, un discernement, un courage. Elle réussit quelque part à éviter que ce violeur finalement ne la tue. Et ce violeur est interpellé, moi je me dis, c'est très bien, il est interpellé, et puis par la suite, une fois qu'il aura purgé sa peine de prison pour viol, il va être reconduit tout simplement dans son pays, et c'est pas ce qui va se passer, il va être à la stupéfaction générale libéré en 2024, relâché dans la nature, hein, on n'est plus dans les délais pour rester en centre de rétention administrative, puisqu'on est dans ces aberrations d'addition de délais computés qui rendent impuissants, compliqués ceux qui devraient pas l'être. Et finalement, il est sous OQTF, obligation de quitter le territoire français et de pointer. Il est assigné à résidence. Il n'a pas de résidence. Hein. Il est dans un foyer d'accueil, quelque chose comme ça. Donc, il n'y a aucun contrôle. On lâche un monstre dans la nature. Et cette fois, il ne va pas se contenter de violer Philippine. Il va la violer et il va la tuer. C'est pour ça que je dis, on est chez les fous et que je suis en colère. Et c'est un peu comme ça que démarre mon livre, parce que à travers l'émotion ressentie avec la mort de Philippine, la raison reprend le pas en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un fait divers ? Ou est-ce que toute cette addition de meurtres, d'homicides, de violences fait que tout s'est déglingué ? Moi, je dis, tout s'est déglingué.
Et puis, ça oblige à revenir peut-être aussi sur la situation réglementaire quant aux OQTF, les expulsions, le contrôle des délinquants. C'est tout ça qui se joint à ce témoignage.
Bien sûr, tout est à revoir. Notre système est empêtré dans le juridisme. On a organisé l'impuissance publique, puisqu'effectivement, des personnes en situation irrégulière peuvent se voir défendre avec des associations subventionnées par l'État, ont droit à un avocat pour aller devant le tribunal administratif. Par contre, l'État, lui, ne se défend pas, ce qui est surréaliste, et c'est assez anormal et scandaleux, Et puis, évidemment, dès que vous voulez parler de ça, on met en avant un débat qui n'a rien à voir sur le racisme, alors que c'est un débat de bon sens.
Absolument.
Et les premiers affectés par cette situation dégradée sont les étrangers en situation régulière qui respectent le pays et qui rentrent légalement sur notre pays, dans notre pays.
Alors, Frédéric, vous enchaînez aussi avec une anecdote de cambriolage, et on y reviendra peut-être un peu plus tard, parce que par rapport au domicile, hein, dont vous voulez que ce soit considéré comme un sanctuaire, et on y reviendra. Moi, je voudrais aussi revenir sur ce vol à la portière d'une femme qui n'est plus très jeune et qui a voulu coûte que coûte défendre son sac à main. Je vous laisse nous expliquer.
C'est malheureusement des cas qui arrivent très fréquemment. Lorsque j'étais à Nice, mais dans toute ma carrière, alors à Nice, on avait ce qu'on appelait ces vols avec violence, qui étaient des vols à la portière. Et effectivement, on avait les mêmes équipes qui volaient, qui venaient en scooter à proximité du conducteur ou du passager, qui, lorsque les vitres étaient ouvertes ou à demi ouvertes, puisqu'on est à Nice, il fait une température clémente, ou qui parfois cassaient la vitre avec un marteau et qui s'emparaient du sac. Cette personne qui avait près de 70 ans, hein, si ma mémoire est bonne, ne s'est pas laissée faire. Elle est sortie, elle a réussi à courir après le voleur qui était devenu le passager d'une personne à mobylette, et puis à tenir son sac, et elle a été traînée sur plusieurs dizaines de mètres, traînée, blessée, et elle a été frappée pour qu'on lui fasse lâcher prise. Alors c'est très classique, sauf que effectivement, quand j'ai voulu moi à l'époque aller voir le procureur de la République pour dire il faut traiter absolument ce phénomène et il faut une répression ferme, sévère, c'est scandaleux, la réponse pénale n'était pas à la hauteur, mais il n'y avait pas de réponse pénale du tout. C'est-à-dire le week-end, alors qu'on avait des événements aussi traumatisants que ça, les mêmes personnes qui réitéraient, on me disait, ils vont être convoqués à l'audience, etc. Donc c'est scandaleux, c'est une impunité, et il se trouve que le hasard fait que des mois après, dans une réunion publique, effectivement, j'ai vu le fils de cette dame qui effectivement m'a rappelé les faits et m'a dit, suite à ça, ma mère s'est laissée mourir. Elle sortait plus, elle a perdu confiance, elle s'est mise à avoir peur, elle était traumatisée, et je me dis là aussi, c'est un échec collectif, et c'est dû à le fait qu'on a organisé depuis 40 ans l'impuissance publique. On a flingué la dissuasion judiciaire et l'autorité.
Alors vous dites que dans ce livre que la France est passée de 500 000 crimes et délits par an en 1960 à 3,6 millions en 2022, donc un bond énorme, que les cambriolages ont bondi de 60% en 25 ans, et là encore, enfin c'est un petit peu c'est un peu votre fil rouge, hein, du livre. Vous dites que les policiers ne sont pas seulement débordés par la multiplication des faits, ils sont entravés par une procédure dont la complexité s'est aggravée au moment précis où la délinquance devient violente.
Oui, on a constaté une explosion dans la délinquance qui a commencé dans les années 70, qui s'est accélérée dans les années 80-90, et au même moment, la réponse de l'État était de dire « mais il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité », et au même moment, on a commencé à critiquer les peines de prison, à multiplier les alternatives à la prison, à la sanction, les rappels à la loi, à classer les affaires, et finalement à désinhiber et encourager les délinquants et l'impuissance publique. Alors c'est la politique pénale, ça a été également la politique de sécurité qui a jamais été pensée avec une stratégie. Et finalement, c'est un désastre, parce qu'on a stigmatisé les peines de prison, on a enfermé, incarcéré de moins en moins les atteintes aux biens, comme les cambriolages, les vols, etc. Et le système s'est déglingué avec une idéologie anti-prison, puisque le parc carcéral est sous-dimensionné. Donc on manque de places de prison. On n'exécute pas près de 100 000 peines de prison. Donc ça veut dire qu'il y a 100 000 victimes qui sont victimes d'une injustice, et de policiers et gendarmes qui ont travaillé pour rien, et d'auteurs, ces 100 000 auteurs qui se disent, eh ben finalement ça vaut le coup, le système ne veut rien dire. Dès qu'on vous dit incarcéré, on n'est pas incarcéré, et on a un système d'application des peines qui est devenu extrêmement compliqué, qui n'existe pratiquement qu'en France et en Italie, hein, le système d'application des peines tel qu'il existe, avec maintenant un code d'application des peines, et qui est devenu illisible, surtout, qui est devenu illisible et qui a contribué, parce que lorsque la dissuasion judiciaire s'effondre, l'autorité du gardien de la paix s'effondre, tout est lié, c'est ce qu'on n'a pas compris, tout est lié.
Et donc ces chiffres représentent donc 400% de hausse au niveau du taux de la délinquance. Donc c'est des chiffres très parlants dont forcément tout le monde est au courant quand même. Alors, il n'y a pas que vous qui les connaissez, ces chiffres.
Bien sûr, tout le monde est au courant. On a 600 cambriolages par jour, 70 refus d'obtempérer par jour. On a 1000 agressions par jour dans ce pays. Non, mais tout le monde trouve ça normal. Effectivement, bien que l'appareil statistique était bien moins performant dans les années 50, hein, mais dans un sens comme dans l'autre, on a aujourd'hui une explosion de la délinquance et un taux d'élucidation qui a fortement chuté face à la massification de la délinquance. Donc, pourquoi, je l'ai dit, par idéologie, et puis c'est un véritable scandale, parce que la sécurité et la justice, ça fait partie du contrat social. On dit aux citoyens, originellement, le monopole de la violence, c'est l'État qui a la force légitime. Hein, on confie la force légitime à des policiers en démocratie, et on vous demande, vous, citoyens, d'y renoncer. Et on vous demande, en contrepartie aussi, d'accepter le consentement à l'impôt et la loi de l'État. En contrepartie, on va vous protéger. De la même façon, on vous demande, vous, citoyens, de ne pas vous faire justice vous-même quand vous êtes victime d'une infraction. La justice va s'en charger avec un grand J. Mais quand ça ne fonctionne plus, c'est extrêmement grave. Alors, imaginez, c'est ce que je dis souvent, qu'aujourd'hui, en 2026, on apprenne que la durée de vie des Français, qui est de 86 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes, passe à 65 ans.
Oui.
Vous imaginez, ce serait désastreux.
Oui,
imaginez que la mortalité infantile, qui est de 5 pour 1000 naissances, repasse comme elle était en 1946-47 à 50 pour 1000. Ça serait choquant.
Oui.
Imaginez que le taux d'alphabétisation, qui est à 100% d'alphabétisation en France, de scolarisation, repasse à 70%. Personne dira, ben, c'est comme ça, c'est l'évolution. Tout le monde dirait, c'est scandaleux.
Dans l'injustice
totale. Un grand pays comme la France, la 7e, probablement, puissance économique, il faut pas accepter ça. Notre qualité de vie se dégrade. C'est absolument anormal. Et c'est pas la faute de la pluie. C'est pas la faute de la météo. C'est pas la faute de quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. On peut, de façon franco-française, maîtriser ces questions. C'est pas comme les questions économiques ou encore plus les questions écologiques qui dépendent de facteurs internationaux. Là, c'est un échec franco-français, l'explosion de la délinquance et la ruine de la dissuasion judiciaire. Mais en même temps, l'espoir, c'est qu'on peut, de façon franco-française, avec de la volonté politique et une stratégie, reconstruire tout cela si on en avait la volonté et la lucidité.
Frédéric, on va y venir. Je vous propose qu'on fasse une pause et on va écouter un titre que vous avez choisi de Alain Barrière, Tu t'en vas.
Tu t'en vas. De t'y méprendre. Tu t'en vas. Et notre amour nous appartient, nul ne saurait nous le reprendre. Tu t'en vas. L'éloignement aide parfois à mieux s'aimer, mieux se comprendre.
Tu t'en vas. soleil qui disparaît, comme un été, comme un dimanche. J'ai peur de l'hiver et du froid, j'ai peur du vide, de l'absence.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
C'est l'économie en direct et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Lauze, commissaire, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, qui a sorti il y a quelques mois un livre choc, Insécurité, stop à la descente aux enfers, paru chez Fayard. Et nous décortiquons ce livre au fur et à mesure des pages. Frédéric, avant de parler des solutions que vous avez proposé, déjà je voudrais qu'on parle du défi du narcotrafic, hein, puisque c'est moi qui vous suis sur les réseaux sociaux, vous en parlez depuis plusieurs années, et je pense que là il y a eu des mesures qui ont été prises en 2025. Qu'en dites-vous?
Ben, il y a une loi qui a été faite suite à une commission sénatoriale qui a marqué les esprits, puisque les auditions des policiers, et notamment les auditions des magistrats marseillais, a été un véritable électrochoc. Pour prendre conscience que le narcotrafic n'était pas simplement un enjeu de sécurité ou de santé publique, mais un enjeu de souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, le narcotrafic, c'est un chiffre d'affaires à environ 7 milliards qui est en hausse. Ça implique à peu près 240 000 personnes qui y contribuent, quoi. Ce seraient les effectifs d'une grande société cotée au CAC 40. Et puis évidemment, c'est désastreux parce que, je le dis, c'est un enjeu de souveraineté en termes de corruption, d'économie souterraine, de blanchiment. Notre société bascule et puis ça pose le problème aussi des consommateurs. Et alors évidemment, cette loi est plutôt une bonne loi. Hein, elle a mis en place des mesures intéressantes.
C'est un parquet spécialisé, un petit peu comme pour le parquet antiterroriste, c'est ça?
Tout à fait. Il y a la création notamment d'un parquet dédié spécialisé à la criminalité organisée, notamment au trafic de stupéfiants. Il y a beaucoup de mesures sur pour mieux appréhender les avoirs criminels, lutter contre le blanchiment, qui sont dans cette loi, sur l'interdiction de paraître des voyous, des trafiquants de drogue dans les quartiers. Et je ne vais pas détailler la loi, mais il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes et qui sont des propositions qui sont issues de ce rapport parlementaire et qui ont donné lieu à cette loi de juin 2025. Néanmoins, il y a un domaine qui est très sensible et qui est sur lequel on n'a pas pu intervenir pour des raisons liées à la censure du Conseil constitutionnel et au droit européen, hein, on va dire ça comme ça, c'est la demande des services de police d'accéder aux messageries cryptées avec une backdoor. Pas d'accéder, de casser, de décrypter, je veux dire, ce qui fait aussi la liberté individuelle, la liberté de correspondance aujourd'hui, mais de pouvoir sur réquisition judiciaire et de pouvoir ordonner aux opérateurs d'avoir une porte d'entrée contrôlée pour pouvoir accéder aux messageries cryptées. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on vous parle de l'affaire Epstein, toutes les messageries, toute la pédocriminalité, tout le trafic de stupéfiants, tout ce qui est nuisible passe par ces messageries cryptées. Donc, doit-on se résigner, comme c'est le cas, à dire c'est impossible? Vous voyez, l'impossibilisme, le fatalisme. C'est-à-dire, on perd notre souveraineté numérique. On est dans une vassalité numérique et technologique telle qu'on peut rien faire. Alors, on peut rien faire. Ben, il faut des hommes politiques, un conseil constitutionnel qui puisse dire on peut faire maintenant. Parce qu'il y va de la sécurité des Français, de nos enfants, des victimes.
Je crois aussi que cette loi a l'intention de toucher un petit peu au portefeuille des narcotrafics, de geler leurs avoirs, il me semble. Donc c'est parce que quand on va parler des solutions que vous proposez, ça en fait partie, hein, toucher au portefeuille des délinquants.
Oui, et puis on a en France un service qui gère les stupéfiants, qui associe les douanes, qui associe la gendarmerie, d'autres partenaires, qui est l'OFAST avec des antennes et qui lutte contre le trafic de stupéfiants avec des policiers très courageux, très impliqués. Et cette lutte se fait au niveau local, hein, au niveau des points de deal physiques et numériques, au niveau national. Et faut pas oublier qu'on a 6000 km de côte, des outre-mer qui sont particulièrement vulnérables en France. On est un pays vulnérable, on est un pays de consommation, de rebond. Et en même temps, au niveau international. Et là aussi, je note quand même qu'il y a des progrès qui ont été réalisés dans la coopération avec le Maroc, avec les Émirats Arabes Unis, peut-être avec la Colombie, c'est en train de se faire, puisqu'il y a des attachés de sécurité intérieure, des magistrats de liaison dans tous ces pays. Voilà, c'est certainement insuffisant, mais il faut saluer ce qui est fait en matière de trafic de stupéfiants dans ces trois dimensions, locale, nationale et internationale.
Oui, on peut espérer que, puisque le parquet antiterroriste avait quand même obtenu des résultats, on peut espérer qu'à terme, ça soit aussi efficace.
Ça sera plus compliqué, je pense, qu'en matière de terrorisme.
Ah oui. Ce narcotrafic, est-ce qu'il est en directe association avec la montée en puissance des mineurs délinquants, selon vous ?
Oui et non, c'est-à-dire que la montée en puissance des mineurs délinquants, qui est très importante, hein, on parle d'environ 200 000 mineurs qui sont aujourd'hui mis en cause, ce qui veut dire aussi qu'en termes d'instruction, d'éducation, il y a quelque chose qui ne va pas, de responsabilité parentale, il y a quelque chose qui ne marche plus du tout. Le code de la justice pénale des mineurs qui a succédé en 2021 à l'ordonnance de 45 mais qui a gardé les mêmes principes comme un veau d'or est absolument inadapté. Non pas qu'il faille juger tout le temps un mineur comme un majeur, mais les mineurs de 16, 17 ou tout juste presque 18 ans sont pas les mêmes en 2026 qu'en 1945. Et on a une violence beaucoup plus importante, massive, des mineurs souvent d'origine étrangère ou qui sont eux-mêmes étrangers, qui n'ont pas la nationalité française, et qui viennent de pays où la violence est le mode de régulation des conflits. Et tout ça, on ne peut pas en parler. Là aussi, on vous met en avant le racisme. Ça n'a rien à voir avec le racisme. C'est regarder la réalité en face, c'est-à-dire mettre une bonne thérapie. Et pour cela, il faut un bon diagnostic. Et là aussi, l'aveuglement idéologique. Et alors évidemment que les mineurs sont utilisés et instrumentalisés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ils sont à la fois auteurs et aussi un peu victimes, hein, puisqu'on a des mineurs très jeunes, de 10 ans, 11 ans. On a même des mineurs tueurs qui sont recrutés sur Snapchat, sur Instagram, et qui vont réaliser de véritables assassinats ou des meurtres, des contrats. Et qui sont de la chair à canon pour le narcotrafic. Donc la délinquance des mineurs avait commencé avant la montée du narcotrafic, et elle a été boostée par le narcotrafic.
Et alors là, vous critiquez un petit peu le fait qu'il suffirait d'appliquer une loi à commencer par cet article du code pénal qui dispose que le fait par le père ou la mère de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur. Une charge qui est punie de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, et vous dites que ça n'est jamais appliqué.
Ça n'est jamais appliqué. J'ai essayé de la faire appliquer dans ma carrière à Nice, à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-d'Oise, à la suite d'émeutes assez graves, où de trafic de stupéfiants, où on avait un jeune de 13 ans qui était dehors à 11h, minuit, 1h du matin, qui trafiquait. Qui est impliqué dans le trafic de stupéfiants, dans des agressions graves, de raquettes, de représailles. À un moment donné, quand c'est pas un soir, que c'est tout le temps, j'ai demandé à ce qu'on mette en cause la responsabilité pénale des parents. La réponse a été classement sans suite.
Ah oui.
Et c'est partout pareil dans toute la France, ce qui fait que les policiers ne sont pas incité à mettre en œuvre cette disposition qui existe. Il s'agit pas d'envoyer tous les parents en prison, mais il s'agit de pas faire porter sur la société une responsabilité qui relève des parents. Et on peut plus simplement dire, eh ben, écoutez, les parents sont débordés, ils maîtrisent plus leurs enfants. Alors, ça veut dire à ce moment-là qu'ils peuvent tuer, blesser, être auteur de risques, C'est jamais la faute des parents. Non, parce que la police, comme la justice, ne pourra pas tout faire si en amont, l'éducation n'est pas là. De la même façon, l'école, son rôle, c'est fondamentalement l'instruction. Mais si l'éducation par les parents n'est pas là, donc il faut accompagner les parents, ça s'appelle un accompagnement parental, mais également quand il le faut, ça c'est en matière préventive, il faut des mesures aussi répressives, pas simplement de responsabilité civile. C'est pour ça que je regrette que par idéologie, cet article du code pénal ne soit pas appliqué. Et c'est assez scandaleux parce que je pense que quand vous êtes victime d'un meurtre commis par un mineur, d'un cambriolage, d'un vol avec violence, d'une agression grave, que ce soit par un mineur ou par un majeur, les dégâts sont les mêmes. Et vous posez quand même des questions, surtout quand il s'agit de mineurs, non pas de 17 ans et demi, mais bien souvent de 15 ans, de 16 ans, de 14, de 13 ans. Que font les parents? Voilà. Et on peut pas, c'est pas normal.
Oui, et alors il s'ensuit un phénomène. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit plusieurs fois dans votre livre. Vous dites que chacun nage dans son couloir, c'est-à-dire sans se. C'est, en fait, pour vous, la vraie raison de ce phénomène d'augmentation de délinquance vient du fait que personne n'est en coordination.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux raisons. Il y a une raison idéologique qui fait que on n'assume plus la répression. Et moi qui dis ça, je suis aussi bien évidemment favorable à ce qu'il y ait une prévention solide, sérieuse, ambitieuse, évaluée, ce qu'elle n'est pas. Mais en même temps, sur la lutte contre la délinquance du quotidien, rien ne peut se faire s'il n'y a pas plus de convergence entre la police et la justice, en amont et en aval. Ça n'existe pas. Chacun est dans son îlot. D'ailleurs, vous le voyez, les ministres de l'Intérieur, à coup de rodomondade de viril, vont dire voilà ce qu'on va faire. Quand il y a une infraction grave, c'est pas normal, on va les interpeller, donnent leurs instructions au préfet et au commissaire de police. Et puis, de leur côté, le garde des Sceaux, qui, lui, n'a pas de prise sur le judiciaire, va donner des circulaires de politique générale aux procureurs généraux. Et puis, on se dit, on va espérer qu'ils arrivent à se coordonner au mieux. Or, la temporalité de la justice et celle de la police n'est pas la même. La justice juge un par un des actes judiciaires, des faits, des individus, alors que la police doit restaurer souvent l'ordre public au quotidien. Elle est face à la demande de sécurité des habitants, elle est face aux victimes. Alors il ne s'agit pas de saboter le principe d'indépendance de la justice, mais que la justice sorte de son huis clos endogame pour aller converger, travailler davantage avec la police, parce que, alors certes, on nous dit, il y a les grands principes, enfin, monsieur Loz, la séparation des pouvoirs propre à Montesquieu, et puis je dis, mais oui, mais dans les grands principes, il y a aussi dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, le droit à la sûreté, il n'est pas assuré. Il y a l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit que tout agent public doit rendre compte de son administration. La justice aussi. Et c'est pas normal. C'est pas du tout pour moi une attaque contre les magistrats. Je dis qu'il doit y avoir plus de convergence. C'est pour ça que je propose que le Premier ministre s'empare de ce sujet, parce que c'est lui qui fait de l'interministériel, et qu'aujourd'hui on peut pas couler et mourir en disant mais nous respectons les grands principes. Eh ben les grands principes doivent évoluer, hein. Et le droit à la sûreté est un droit fondamental. Et la façon de travailler dont on travaille depuis deux siècles, on peut peut-être se dire que c'est pas un veau d'or, mais on va pas tout envoyer en l'air, mais ça peut peut-être évoluer.
Ça peut
ça doit évoluer.
Oui. Alors, ce problème, il s'ensuit que la police, il y a une grande solitude chez les policiers, et ça, vous le déplorez vivement.
Oui, il y a une grande solitude parce qu'ils font un travail remarquable. Et je pense, moi je suis secrétaire général du syndicat des commissaires, et on est les chefs de service, je pense, à nos collaborateurs, en particulier les gardiens de la paix qui sont sur la voie publique. D'ailleurs, c'est un mot magnifique, gardiens de la paix. C'est eux qui sont au contact de la violence, de la délinquance, de la souffrance, police-secours, c'est eux le plus souvent, évidemment. Et déjà, la grande solitude, elle vient du fait que leur travail est bafoué. Lorsqu'ils interpellent à répétition des individus et que ces individus sont systématiquement pas neutralisés, ils perdent totalement leur crédit auprès de la population, auprès de ces délinquants. Et bien évidemment, il y a une démotivation qui se met en place et qui existe. Et puis, vous avez de plus en plus ce qui est un phénomène complètement fou. de plus en plus d'agressions contre les forces de l'ordre, d'agressions physiques, ne sont plus respectées, d'agressions contre les policiers à leur domicile, d'agressions contre les policiers en civil, ou quand ils sont, par exemple, en repos, etc., contre leur famille. Ce qui veut dire que pour qu'on ose s'attaquer aux policiers et aux gardiens de prison, demain aux magistrats, que les gens se sentent, ressentent puissamment le sentiment d'impunité. Mmh. Et c'est ça qui va pas. Et il faut se dire que si les policiers demain ne peuvent plus nous défendre, parce que comment sécuriser les autres quand on est soi-même insécurisé?
Bien sûr.
Si les policiers ne peuvent plus nous défendre, alors on va vers des jours d'une extrême gravité.
Oui, on est bien d'accord. Frédéric, on va parler à présent de votre vie de commissaire, parce qu'il y a des témoignages aussi dont j'ai envie de parler. Je vous propose qu'on fasse une pause avant et on va écouter Morane et Lara Fabian, leur duo « Tu es mon autre » et on se retrouve juste après.
Âme ou sœur, jumeau ou frère de rien, mais qui es-tu? Tu es mon plus grand mystère, mon seul lien contigu. Tu m'enribanes et m'embrionnes, et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot déçu. Celle qui fait de toi mon entre, l'être reconnu. Passe l'intrus qui n'en pourra rien attendre, car je suis seul à les entendre, les silences, et quand j'entends toi.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio. Aujourd'hui, nous décryptons le livre Insécurité, stop à la descente aux enfers de Frédéric Lauze, commissaire secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Frédéric, dans votre livre, vous avez des passages sur votre vie en tant que commissaire, mais aussi votre vie de jeune, et d'ailleurs avec un superbe hommage à votre père, que j'ai trouvé très émouvant. Donc, parlez-nous un peu de Billy the Kid.
Alors, lorsque j'étais adolescent, effectivement, j'ai été à la dérive, puisque mon niveau scolaire était catastrophique et donc non seulement mon niveau scolaire baissait, mais en plus je me suis fait renvoyer de 2 ou 3 établissements. Bon. Avec des renvois progressifs. Or, c'était dû au fait que j'étais très agité, j'étais pas mûr. Et puis, à la maison, j'étais dans une famille où on était 4 enfants. Il y avait beaucoup d'amour, mais malheureusement, ma mère était malade et mon père s'est retrouvé licencié. Et puis, avec lui aussi, de graves problèmes de santé, donc surendetté, risque d'expulsion, les huissiers qui tapaient à la maison.
Beaucoup d'angoisse.
Tout ça fait que ça m'a à la fois révolté, insécurisé, et je pense que c'est une des raisons, c'était pas la seule, pour laquelle j'étais un élève turbulent à l'école et ingérable même, et puis finalement que mon niveau a baissé, a coulé, et puis j'ai quitté le système scolaire, j'ai pas fait de bac, j'ai pas fait de lycée, je suis allé à l'école hôtelière, ça s'est pas bien passé non plus, me suis retrouvé apprenti chez un patron à Vence, où j'étais serveur de restaurant, je préparais un CAP, Et puis pour moi, l'école, reprendre des études, était quelque chose d'absolument impossible, abstrait. Et puis c'est pour ça que je suis parti sur les conseils de mon père. J'ai devancé l'appel et je me suis engagé dans les paras, dans une compagnie de combat, pour faire mon service militaire. Je suis parti au Liban et voilà, le destin d'ailleurs a été à la rencontre pour moi, puisque à l'intersection de mon chemin, puisque j'ai assisté à énormément de choses. Et à la fin de mon service militaire, qui a été très très mouvementé, mon père, qui était un homme extraordinaire et qui croyait en moi, qui savait que j'avais loupé mes études, que j'avais juste mon CAP de serveur, m'a inscrit, sans me le dire, à la capacité en droit.
Oui.
Et il m'a appelé de loin en me disant, je suis allé aux cours pour toi, les cours avaient commencé, je n'étais pas encore libéré, hein. Et il m'a dit, je te propose qu'on y aille ensemble dans l'amphithéâtre, et puis il m'a aidé à reprendre en cours du soir, à faire des dictées, des autodictées, c'est-à-dire le cours avait lieu de 20h à 22h, on rentre à la maison à 22h45, et jusqu'à 1h du matin, on reprenait, dictait, autodictait, et puis tout ce que j'avais loupé. En vrac, il m'avait acheté des livres de 3e, 2e, 1ère, et de tout seul, j'essayais de façon anarchique de rattraper ce qu'on peut pas faire, des années perdues. Mais il m'a énormément aidé, encouragé, avec beaucoup de, je dirais, non seulement d'amour, mais de pédagogie. Et en plus, lui qui culpabilisait beaucoup, en disant, ben, c'est à cause de moi que mes deux enfants, les deux sur les quatre enfants qu'on était, ont quitté le système scolaire parce qu'on était au chômage et tout, ben, il a eu quand même la satisfaction de me voir arriver, miraculé, à reprendre des études. Voilà. Et puis, évidemment, je suis un exemple topique du fait que le service national m'a remis les idées en place.
Oui. Voilà. Et vous.
Je milite pour un service national.
C'est ça, vous regrettez, vous.
Alors, pas le même qu'il y a, il y a 30 ans. Mais je milite pour un service national. Il semblerait qu'on veuille le remettre en place. C'est une des propositions que j'ai faites depuis longtemps. Qu'il soit universel, homme, femme. Pas forcément obligatoire, mais très fortement incitatif. C'est pour ça que je propose des formations gratuites, la priorité à l'embauche, aux formations, des points retraite, un salaire, de façon à ce que ce soit très attractif pour ceux qui consacreraient 1 an ou 10 mois pour à donner à la nation.
Oui.
Parce que c'est ça, c'est la nation.
Et alors je fais une diversion, mais je crois qu'il y a des pour les délinquants, il y a des possibilités. Enfin, il pourrait y avoir les envoyer justement à l'armée quand pour comme une peine. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a la Légion étrangère qui accueille des personnes qui parfois ont un parcours délinquant de tout pays. Et c'est plutôt une bonne chose. La preuve, c'est que ça fait des hommes et des soldats remarquables et des patriotes remarquables. Et évidemment, ça pourrait être une bonne chose, mais il faut un bon encadrement. Mmh. Il faut pas que l'armée peut pas se substituer à l'éducation nationale ou à toutes les structures d'accompagnement, à la protection judiciaire de la jeunesse. Mais pourquoi pas? Mais il faut pas que ça devienne systématique. Mmh. Après, vous avez un service qui a pas été abandonné, qui existe, un service national en outre-mer, qui s'appelle, je crois, le SMA, le service militaire adapté, et dans lequel c'est très concret, puisque non seulement on vous forme à la chose militaire, mais en même temps, on vous apprend un métier. Et dans ces territoires d'outre-mer où il y a beaucoup de chômage, c'est une excellente chose. Et en même temps, bien sûr, il y a une dimension indispensable qui est une dimension patriotique. Parce que pour restaurer la dissuasion judiciaire, l'autorité, la sécurité, le respect des autres, je suis persuadé qu'au-delà des questions d'instruction, d'éducation, d'enseignement éthique, il faut réinsuffler du patriotisme,
oui,
une fierté d'appartenance, et puis l'envie vraiment de se respecter, parce que en plus on est dépositaire d'un héritage extraordinaire, la République, mais aussi la France, FRANCE, et il faut enseigner et apprendre à aimer la France, et indirectement, ça contribuera à faire réduire la délinquance, même si l'association d'idées semble pas évidente. Mais pour moi, elle l'est.
Elle l'est forcément. Frédéric, on revient sur votre apprentissage, hein, et donc vous vous retrouvez commissaire. Et pour vous, à un moment, vous vous dites, je suis à ma place.
Alors ça a été long et compliqué, parce que quand j'ai repris des études en travaillant, en voyageant, enfin j'ai fait 50 Mais quand je m'y suis mis à fond, parce que j'ai commencé par des dictées, des autodictées. Mon père d'ailleurs m'a beaucoup aidé. Et puis après, tout seul, je me suis instauré une discipline de faire.
Oui, d'ailleurs, vous dites à un moment, quand vous présentez à l'examen de la capacité, vous dites que vous savez tout tellement par cœur, vous avez peur qu'on croit que vous allez tricher. Donc...
Oui, puisque un des professeurs qui avait corrigé ma copie à l'écrit avait ma copie à l'oral et m'a dit « je vais vous réinterroger sur votre copie ». Puisque effectivement, non seulement j'avais compris, mais j'avais tout appris par cœur. Mmh. Et ça m'a aidé, hein, ça a exercé ma mémoire, ça m'a pas empêché de comprendre ce que j'apprenais par cœur. Mais effectivement, j'avais une telle rage de m'en sortir, de m'extirper de ma condition sociale en reprenant les études, et puis j'avais pas confiance en moi, que j'ai travaillé d'arrache-pied, et puis effectivement le par cœur faisait partie des techniques.
Mais en tout cas, ça vous a réussi.
Aidé, oui.
Oui. Pour reprendre votre, vous parliez de patriotisme. Il y a cette réplique de Jean Jaurès, à celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien. Donc c'est quelque chose que vous connaissez avec vos tripes.
Oui, d'ailleurs, je regrette que une partie de, parlons clairement, de la gauche est abandonnée. On parle de la République, mais parle pas plus de la patrie. Mmh. Et la fonction tribunicienne de la gauche, lorsque les gens souffraient socialement, ce rôle était rempli. On disait, attendez, il y a du chômage, il y a des problèmes de formation, il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Et Jean Jaurès, Léon Blum, la gauche. Et puis par la suite, lorsque les Français les plus modestes, les plus défavorisés ont dit, mais on souffre aussi d'insécurité. Alors là, et qu'on a parlé insécurité en disant soyez raisonnables sur l'immigration, là on a dit ah ben ça y est, c'est des fachos, ils nous intéressent plus, on les a abandonnés. Bon voilà, moi je pense que le patriotisme est pas une affaire de droite ou de gauche, et d'ailleurs il y a des patriotes de droite et de gauche malgré ce que j'ai évoqué, et que c'est indispensable. C'est pas le nationalisme. Le nationalisme, c'est la détestation des autres. Le patriotisme, c'est simplement aimer son pays. Et tous les révolutionnaires français, d'ailleurs, étaient patriotes. Hein, et c'est indispensable. De toute façon, on a un besoin d'identité. On vient pas de nulle part. On n'est pas de nowhere, personne. Et on est enraciné. Et le grave danger avec les réseaux sociaux, la mondialisation économique et tout cela est orchestré, je suis pas complotiste, mais c'est orchestré, c'est de nous réduire non plus à des individus citoyens et patriotes, mais à des consommateurs. Et là, c'est la fin de tout. Hein, c'est la fin de tout, et ça, c'est le danger de l'hyper-libéralisme et la mondialisation telle qu'elle est construite. C'est pour ça que moi, je crois à des régulations nationales, et pour éviter le communautarisme, quel qu'il soit, oui, régional, musulman, juif, dans ses excès, parce qu'après on a le droit de se sentir juif, musulman, breton, auvergnat, corse, etc. Il faut quand même magnifier non seulement la citoyenneté française, liberté, égalité, fraternité, la République, mais également la France. On peut pas simplement dire je milite pour les valeurs républicaines et oublier la France volontairement. Mmh. On peut pas juste dire j'aime la France et oublier que la France aujourd'hui elle s'est construite avec des valeurs républicaines. Il faut les deux. Mais aujourd'hui, on a beaucoup oublié la France, tout simplement parce qu'on en fait elle s'est pris en otage idéologiquement par les guéguerres que vous voyez, Rassemblement National, droite, gauche. On a besoin de patriotisme, on est dépositaire d'un bel héritage. Si on veut que des gens s'assimilent bien en France, eh ben il faut du patriotisme. Si on veut sortir du communautarisme ou de l'hyper-individualisme, il faut du patriotisme, ce qui n'empêche pas d'avoir une identité plurielle, parce que l'identité est plurielle et elle est évolutive. On peut être français, musulman, français, juif breton, enfin voilà, l'identité est plurielle. Mais on est français, et ce qui fait la grandeur de notre histoire, tous les mécanismes de solidarité qui ont été mis en place, cette langue magnifique, cette influence extraordinaire qu'on a eue, notre littérature, les arts, la façon de vivre, c'est la France. Il faut apprendre à aimer la France. Même si elle n'est pas parfaite, hein, comme
c'est
moi,
un des pays les plus accueillants,
j'ai appris à aimer mes parents, Et mes parents n'étaient pas parfaits. Je suis père de famille et je ne suis pas un père parfait. Mais voilà, c'est indispensable.
Frédéric, on marque à nouveau une pause avec le titre « Sorrow » de Mort Schumann. Et on revient sur la mise à disposition d'un avocat pour les délinquants. Je crois que c'est un sujet qui vous tient à cœur aussi. À tout de suite.
Sorrow, sorrow since you left. Sorrow, sorrow in my heart. I just can't believe it's over. I never could have dreamed that we would part. Sorrow, sorrow in the morning. Sorrow, sorrow late. A ship without a sailor. That's how I am without your arms to hold me tight.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Merci d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Une émission spéciale dans laquelle j'accueille aujourd'hui Frédéric Clause, commissaire, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, qui a fait paraître son dernier livre il y a quelques mois, Insécurité, stop à la descente aux enfers. Frédéric, on égrène votre livre au fil des chapitres. Une des mesures que vous déplorez, c'est le fait qu'un délinquant puisse faire appel à un avocat dès sa mise en garde à vue. Et vous dites que expliquez-nous le mécanisme qui pour vous est un peu pervers.
Il y a débat parce qu'en apparence, les droits de la défense, qui peut s'opposer aux droits de la défense, avoir un procès, je dirais, équitable dès le début, etc. Ce que je conteste, c'est la façon dont ça a été mis en place, et c'est excessif, parce que tout simplement, on a fait comme si on était dans un système américain, et on fait comme si l'enquêteur, l'officier de police judiciaire, l'OPJ, travaillait à charge. C'est-à-dire, il travaille contre une personne, monsieur un tel qui a commis un vol, un cambriolage, etc. Et donc, en contrepartie, il faut rééquilibrer la procédure et que le mis en cause puisse bénéficier d'un avocat, ce qui est normal quand il y a une instruction devant la juridiction de jugement. Mais dans les 24 heures qui sont données aux policiers, les 24 heures, c'est court, et parfois 48 heures quand il y a prolongation, qu'on puisse bénéficier d'un avocat et qu'il ne puisse plus y avoir d'audition sans la présence de l'avocat, tout ça est excessif. Effectivement, j'en parle parce que l'erreur, c'est que le policier ne travaille pas à charge contre quelqu'un. C'est absolument faux. C'est un raisonnement spécieux. Le policier travaille à charge et à décharge. De la même façon qu'un juge, d'instruction, par exemple, travaille à charge et à décharge. On n'est pas dans le système américain. Donc, on travaille ce qu'on appelle in rem, sur les faits, et pas in personam, sur les personnes. Donc, là, on n'est pas en matière civile. Quand une infraction a été commise, c'est une extrême gravité. C'est la société qui est attaquée. C'est la victime qui est attaquée, mais également la société. Il faut bien laisser un temps d'avance à ceux qui représentent l'intérêt général pour pouvoir élucider une affaire. Vous voyez, après qu'il y ait un avocat dans un deuxième temps dans la phase judiciaire, c'est indispensable et tout à fait normal. Et effectivement, j'ai de fortes réserves sur la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue. Je pense qu'il faudrait revenir à ce que l'avocat vienne pendant la garde à vue. je suis, et simplement ça, ne pas faire dépendre les auditions de la présence de l'avocat, supprimer le droit au silence, là aussi, on s'est inspiré des films américains.
On sent que vous êtes en colère, hein, contre ça.
Oui, c'est aberrant, alors on essaie de nous dire, mais c'est normal, et on part ça de quelque chose d'éthique, etc. Mais parce que les gens ne réfléchissent pas, dans le système américain, où vous avez le droit au silence, et pour moi c'est contestable, parce que je suis pas fan de tout ce qui vient du monde anglo-saxon et des États-Unis, hein, il y a des bonnes choses, mais il y a des mauvaises choses, ben, il y a aussi le délit de parjure qui accompagne le droit au silence. Vous voyez, c'est pas pareil. Donc chez nous, on a pris le droit au silence pour protéger les mises en cause, les protéger, mais voilà. Mais avec le, mais on n'a pas le délit de parjure lorsqu'on s'aperçoit que quelqu'un a délibérément menti. Et puis, c'est, avec le droit au silence, on n'aurait pas pu arrêter Guy Georges, hein, le tueur, et on aurait eu d'autres femmes qui se seraient fait tuer, violer. Donc moi, je pense que il faut supprimer le droit au silence et il faut penser les principes différemment. Au contraire, c'est valorisant que de s'incriminer soi-même si on est coupable, c'est-à-dire de dire « oui, je reconnais ». Vous savez ce qu'on dit ? On dit « faute avouée », le bon sens populaire, « faute avouée à moitié pardonnée ». Mais évidemment, celui qui contribue à l'œuvre de justice, y compris à arrêter sa propre délinquance ou celle des autres, devrait être plutôt encouragé. On doit prendre ça en compte et non pas le droit au silence. Parce que ce qui compte, c'est les victimes, c'est défendre la société. Donc, effectivement, les droits de la défense, tels qu'ils ont été mis en place strate après strate, ont paralysé la procédure. C'est pas la seule raison, hein. Et puis, il faut pas oublier une chose. Même si la profession d'avocat est un métier magnifique, moi, j'ai plein d'amis d'avocats, j'ai même des policiers qui sont devenus avocats, mais on n'est pas à égalité. L'avocat travaille pas dans l'intérêt général comme un policier, un enquêteur. L'avocat, c'est pas injurieux de dire que c'est une profession commerçante. Mm-hmm. Il y a besoin de faire de l'argent.
Bien sûr,
l'avocat qui va défendre un narcotrafiquant ou un cambrioleur, d'après vous, l'argent qu'il va recevoir vient de quoi ?
Bien sûr.
L'avocat a le droit de mentir. Hein, c'est l'avocat qui sait que son client est coupable d'un cambriolage, d'un viol ou d'un meurtre, va pas le dénoncer à la justice, vous voyez ? Alors que le policier fait son travail à charge et à décharge. Il va pas enfoncer quelqu'un, sinon il perd son boulot, le policier, s'il ment sur un procès verbal. C'est pour ça que mettre à égalité, vous voyez ce que je veux dire, les droits de la défense et le droit des, les droits que possèdent de moins en moins d'ailleurs les enquêteurs à paralyser la procédure
pénale,
décourager les policiers. Et le problème n'est pas le confort du travail des policiers. Surtout, ça a envoyé un message catastrophique aux victimes. Et c'est l'une des raisons qui fait que nos procédures, c'est des stocks qui s'accumulent, On a de moins en moins d'élucidations. Et en même temps, on a paralysé l'enquête judiciaire. Et on a jeté une suspicion sur le travail des policiers. Les 24 heures, c'est rien, 24 heures. Quand vous enlevez la nuit, vous voyez, la soirée, la nuit, où vous pouvez pratiquement pas travailler, vous pouvez pas faire de perquisition, vous pouvez pas faire d'acte, vous pouvez pas entendre quelqu'un à 2 heures du matin, généralement, hein, bon, à part une urgence absolue. Vous imaginez, le temps est très bref dont disposent les enquêteurs. Et on a multiplié le formalisme au détriment du fond, alors que les enquêteurs travaillent dans l'intérêt général, pas pour leur confort. Les policiers, les gendarmes, ils travaillent dans l'intérêt général pour élucider, pour arrêter le crime, arrêter les délits. Et c'est pas tout envoyer en l'air, déplacer le curseur. Oui, je veux revenir sur l'avocat à la première heure de garde à vue, sur le droit au silence. L'avocat peut venir en garde à vue, mais il vient quand il vient, à la fin, pendant, mais pas faire dépendre la procédure de la présence de l'avocat. On n'est pas au même niveau. Et en même temps, c'est paralyser l'action de la police au nom, pour la défense de la société. Alors qu'après, qu'il y ait un avocat dans la phase judiciaire, c'est absolument même indispensable.
Oui. Bien sûr.
C'est deux
choses. Oui, puis ça peut être aussi sujet à des erreurs de procédure. Enfin, ça peut aller très loin, quoi.
Ben, le juridisme et les avocats, pas tous, hein, qui vont travailler, travaillent essentiellement à 99% que sur les nullités. Vous avez même des logiciels qui vous apprennent à traquer avec l'intelligence artificielle les nullités. C'est pour ça que des fois, c'est assez choquant. On voit des gens, des trafiquants de drogue, des gens qui ont commis des crimes, des délits qui ressortent. Mais c'est choquant. Tout le monde est heurté par ce juridisme.
D'accord. Frédéric, alors l'heure tourne, hein, et je pense qu'on va pas pouvoir tout prévoir ce que j'avais envisagé. Vous regrettez qu'on soit d'un humanisme débordant. Vous dites qu'il faut retrouver le sens de la sanction, et parce qu'en plus cette délinquance a un coût énorme. Et comme on est dans une émission d'économie, c'est l'occasion d'en parler.
Oui, alors je ne regrette pas l'humanisme. Je fais partie, non, je me définis comme
humaniste. Vous ne le regrettez pas.
Je dis que c'est un humanisme dévoyé.
Ah oui.
Voilà, dévoyé, pas débordant, mais dévoyé pour moi. Et voilà, c'est un humanisme complètement dévoyé, parce que la preuve, c'est qu'on a complètement oublié les victimes. On s'est concentré sur les auteurs de l'acte, sur l'individualisation de peine. Le trouble à l'ordre public est très peu pris en compte, très insuffisamment. La victime n'existe pas, d'ailleurs elle ne peut pas faire appel, etc., d'une condamnation. Alors, effectivement, le coût de la délinquance, parce que c'est très important. On est dans un pays où on est absolument infantilisé, dans ce domaine comme dans d'autres, hein, pour tout ce qui est finances publiques, tout ce qui est social, etc. Le coût de la délinquance devrait être analysé chaque année.
Oui.
Je propose qu'il le soit par la Cour des comptes et par l'INSEE, avec un travail sérieux, une vraie méthodologie, parce que lorsqu'on analyse le coût de la délinquance, vous savez, quand je dis qu'on avait 500 000 crimes et délits, qu'on en a 3,6 millions, etc., bon, même s'il faut regarder tout ça finement, mais enfin, le temps long nous dit quelque chose sur la dégradation de la qualité de vie, de l'insécurité, de la dissuasion judiciaire. Quand on regarde le coût de la délinquance, alors de temps en temps, on le fait ponctuellement. Il y a eu les émeutes suite à l'affaire et la mort du jeune Naël. Là, une semaine de violence urbaine, c'était 800 millions d'euros.
Ah oui.
Ça, c'est la conséquence directe. Certainement que si on avait calculé les conséquences indirectes, assurantielles, les préjudices psychologiques, parce que 10 000 voitures brûlées, des commissariats attaqués, des gens en arrêt maladie, des bâtiments publics dévastés, on est sur plusieurs milliards. Je dis que chaque année, le coût global de toutes les formes de délinquance, il était calculé. Ce qu'a fait un économiste qui s'appelle Jacques Bichot, qui est à la retraite, qui est un ancien administrateur de l'INSEE, il a calculé le coût de la délinquance, mais tout seul. Je ne vais pas dire au doigt mouillé, parce que c'était quand même un économiste. Et à l'époque, il avait parlé de 150 milliards.
Ah oui.
Donc vous imaginez, c'était il y a une quinzaine d'années, 12 ans, 13 ans, 150 milliards. Aujourd'hui, on serait vers les 200 milliards, 220 milliards, parce que c'est le coût direct, le coût indirect, le coût assurantiel, etc. Mais ça aurait, d'abord, ça responsabiliserait tous les parlementaires, en disant, certes, la police, la gendarmerie coûte cher, l'administration pénitentiaire coûte cher, la justice, mais regardez le coût de la délinquance. Et maintenant, on va s'attaquer à cette délinquance sérieusement, ce qu'on ne fait pas de façon stratégique, méthodique et efficace, parce que non seulement ça a un impact psychologique sur la cohésion nationale et sociale, mais en même temps sur nos finances publiques.
Bien sûr.
Et puis, quel investisseur a envie d'investir dans une ville
Où
il y a de la délinquance, du trafic, de stupes, de l'insécurité, des homicides, des cambriolages. Vous voyez ce que je veux dire ? On a besoin de confiance. Et puis, c'est le rôle de l'État, assurer la sécurité, assurer la justice. Et le compte n'y est pas en 2026.
C'est clair. Alors, dans les mesures que vous proposez, je vais vous les laisser préciser. Moi, j'ai retenu ce que vous voudriez surtout, c'est qu'il y ait une plus grande coordination entre la justice, le ministère de l'Intérieur, enfin les différentes instances. Vous citez le cas des Jeux Olympiques, où malgré toutes les craintes qu'on avait pour cette ouverture, tout s'est très bien passé parce que précisément, il y a une coordination exemplaire. Donc, même si on ne peut pas toujours faire cette coordination, mais voilà, vous, c'est un de vos chevals de bataille, hein, de cette coordination entre services.
Oui, coordination qui est une stratégie.
Coopération.
C'est une stratégie, c'est ce qui manque. C'est-à-dire, il manque une stratégie. Une stratégie pour la sécurité et une stratégie pour la sécurité qui englobe police et justice. Elle n'existe pas. Alors, par contre, là où ça marche, parce qu'il y a des choses qui marchent et il faut s'en inspirer, c'est là où on a mis en place une stratégie. Je prends le cas de la sécurité routière. En 1974, vous aviez 17 000 morts sur les routes pour une population, je crois, de 54 millions d'habitants. 17 000 morts, c'est un carnage. Je ne parle même pas des blessés graves. Voilà, 17 000 morts. Lorsqu'il a été décidé, justement en 1974, de mettre en place une politique de sécurité routière, on a dit stop. On est allé dans la ville de Mazamet, dans le sud-ouest, qui fait 17 000 habitants. On a demandé aux gens de jouer le jeu et de s'allonger sur les routes.
Ah, oui.
Et on les a filmés avec les moyens de l'ORTF de l'époque montrer en termes d'impact, 17 000 morts. Et là, on a mis en place progressivement au fil des années une stratégie avec un objectif. Et là, prévention, répression, on a amélioré la sécurité des voitures, on a amélioré les points noirs, mais aussi la ceinture de sécurité, la lutte contre l'alcoolisme au volant, et puis surtout le permis à points et les amendes. Donc, c'est parfois jugé excessif en disant, moi le premier, je dépasse de 10 km/h, je suis flashé, et puis voilà, je perds des points. Mais évidemment, la sanction financière, c'est-à-dire ce que Beccaria disait, ce qui compte, le juriste et pénaliste italien du XVIIIe siècle, c'est pas l'incrimination toujours plus importante en termes de sanctions, c'est la certitude et la rapidité de la sanction. Aujourd'hui, je rajouterai la lisibilité qui n'existe pas pour établir la dissuasion judiciaire. Là, on a mis en place une stratégie et aujourd'hui, on a chaque année environ, depuis plusieurs années, 3000 morts pour 68 millions d'habitants. Ça veut dire qu'en gros, on a économisé 500 000 vies, 1,5 million de vies. Mmh. Alors, c'est toujours trop. Il y a peut-être des gens qui ont été victimes. Mais vous imaginez, de 17 000 à 3 000. Et pourquoi? Parce qu'on fait payer au portefeuille. Si vous grillez un stop, si moi, je fais un excès de vitesse, qu'on m'interpelle, on va pas me dire, rappel à la loi, vous serez puni quand vous serez puni, dans un an, on sait pas, peine pas exécutée, application des peines, aménagement de peine. Systématiquement, on vous dit, vous payez immédiatement. Sinon, on va prélever sur votre compte en banque, avis à tiers détenteur, huissier du trésor, et vous perdez vos points. Mais c'est ça qui marche. Ce qui marche, c'est dissuasif, c'est rapide, c'est lisible, et on paye. Moi, je propose que cette stratégie, qui marche en matière de sécurité routière pour les contrevenants, elle soit transposée pour la délinquance et que chaque délinquant, auteur d'un vol, d'un cambriolage, d'une agression physique, en plus des dommages doivent payer systématiquement une amende. C'est-à-dire que dans la peine, qu'elle soit avec sursis ou que ce soit une peine ferme, il y ait une amende et qu'il y ait un service de recouvrement solide. Parce que bien évidemment, il y a des gens qui sont insolvables.
Oui, parce que d'autant qu'il se perd à lui-même.
Alors, ils sont insolvables. Mais si on leur enlève leur permis, leur téléphone, l'argent liquide qu'ils ont et qu'ils deviennent blacklistés pour avoir accès là aux réseaux sociaux, là aux aides sociales, vous allez voir qu'ils vont se mettre à payer. Puis vous en avez qui sont insolvables pendant des années, mais qui un jour rentrent dans l'économie réelle, légale. Ils ont besoin d'un prêt. Ils ont fini de faire les cons, pour parler clair, d'être délinquants. Et ben là, on peut leur dire, coucou, vous devez 1 000 euros, 2 000 euros, voilà, vous êtes responsable. Alors, on peut toujours négocier, mais il faut faire payer les délinquants. Et également, quand on a eu les Jeux Olympiques, on n'a pas dit, tiens, on va voir ce qu'on va faire, on va voir en termes de coordination, on a une obligation de moyens, pas de résultats. Ça marche, et puis s'il y a un attentat terroriste, s'il y a des mouvements de foule et s'il y a des pickpockets qui pourrissent l'événement, on n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, tolérance zéro, on met en place une stratégie. Bon, évidemment qu'on a mis en place d'énormes moyens, que c'est pas transposable. Ce qui est transposable, c'est la méthode.
Oui.
La volonté politique est de dire tolérance zéro. Tous les Français même ont vécu une parenthèse à chanter, la délinquance a plongé, etc. Et ça, c'est intéressant. Et il y a beaucoup de choses, pas tout, qui sont transposables. De la même façon, la lutte contre le terrorisme, pendant longtemps, c'était aveuglement, etc. Et là-dessus, il y a des mesures qui ont été mises en place. Alors déjà par Nicolas Sarkozy, qui a fait d'excellentes choses pour valoriser la fonction de renseignement, l'anticipation, le faire en sorte que les services travaillent mieux. Et puis, il a fallu qu'on prenne 450 morts, en gros, entre les attentats de Charlie, les attentats des terrasses, le camion fou à Nice, tous les attentats islamistes, etc.
Vous avez vécu vous-même la mort de Samuel Paty.
Oui, pour qu'enfin on prenne des mesures à la hauteur. Donc je dis, en matière de lutte contre la petite, moyenne, grande délinquance, n'attendons pas qu'on coule pour pouvoir mettre en place les mesures qu'il faut. Mmh. Oui, j'ai vécu en direct l'assassinat de Samuel Paty, puisque j'étais sur les lieux du drame quand c'est arrivé, puisque j'étais directeur départemental de la sécurité publique du Val-d'Oise, et avec mon adjoint, on s'est rendu sur les lieux. Sur le moment, on ne savait pas ce qui se passait, et hélas, on a pu constater sur la voie publique le corps décapité avec la tête à un mètre de Samuel Paty.
Ouais. Frédéric, ce que vous aimeriez, c'est que faire de la lutte contre la délinquance une grande cause nationale. Vous militez pour ça?
Oui, faire de la lutte contre la délinquance une grande cause nationale, sachant que lutter contre la délinquance, c'est avoir un continuum de sécurité et un continuum police-justice qui fonctionne, hein, parce que vous l'avez compris, il faut une stratégie.
Bien sûr.
Il faut sortir de la communication, de la politique des rustines, de la pensée paresseuse, toujours plus de moyens. Bien sûr qu'il faut des moyens. Mais il faut aussi une stratégie, un pilotage et la volonté de dire, au-delà des principes juridiques du veau d'or, le droit européen, de dire non, maintenant on fait baisser la délinquance. C'est notre rôle. Et on va déverrouiller là où il y a des obstacles. Alors, une grande cause nationale, comme on l'a fait, par exemple, pour la sécurité routière. Hein, et puis, je souhaite que le Premier ministre s'empare de cette question et réunisse 2-3 fois par an son garde des Sceaux, son ministre de l'Intérieur, parfois Bercy, une fois par an, hein, sur le recouvrement de ces fameuses amendes pénales que je veux rendre systématiques au niveau délictuel, de façon à ce que on s'attaque à ce sujet et aussi... ça commence par le conceptuel, hein, l'État, l'appareil d'État, on crée une commission nationale sur la sécurité intérieure à l'Assemblée nationale pour former les élus, pour hisser le débat sur la sécurité intérieure, qui est un débat minable, qui est pas, les élus sont pas formés, c'est bordélisé, on est sur l'émotion, les faits divers. Non, il faut une pensée stratégique, comme ça existe pour la défense nationale. Il y a une commission nationale de la défense nationale, il y a un livre blanc, c'est ce qu'il faut. Et après, bien évidemment, il faut simplifier la procédure pénale. Parce que, évidemment, regardez, il y a plus de vocation judiciaire dans la police. On a tué les vocations judiciaires. Les policiers ne veulent plus faire de judiciaire, alors que dans l'imaginaire, tout le monde est rentré parce qu'il a vu des films policiers et un côté justicier parce qu'il voulait faire des enquêtes. Aujourd'hui, l'enquête rebute la plupart des policiers. C'est pas normal. Et en plus, ça fait pas que rebuter la plupart des policiers. C'est scandaleux pour les victimes, tel que ça se passe, et ça produit, ça contribue à la montée de l'insécurité, ça contribue à la montée de l'impuissance judiciaire, et on le voit quand c'est catastrophique. Regardez, la justice, c'est une des institutions dont les Français ont le moins confiance. C'est pas normal, c'est un merveilleux métier, mais que de juger est difficile. Mais ça veut dire qu'il faut changer de braquet.
Vous l'avez dit, vous citez le ministère de l'Armée comme étant un ministère extrêmement bien organisé. Vous aimeriez que la justice soit un petit peu sur ce modèle?
Oui, en tout cas que la justice sans la police ne peut rien faire. La police sans la justice est aussi impuissante sur le terrain. Les deux sont interdépendants. Ils ont des modes de fonctionnement différents. Et puis il y a le principe d'indépendance de l'instruction, des enquêtes, du jugement, des juges du siège. Mais néanmoins, on ne peut plus rester dans des baronnies séparées et il faut converger davantage, pas fusionner. Donc effectivement... pour ça, il faut une stratégie, et je cite en exemple le ministère des Armées, qui a une stratégie, qui a un livre blanc. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué, parce que la sécurité est devenue un objet politique, de débat politique idéologique, ce qui est plus vraiment le cas pour les armées, parce que les Français n'ont pas affaire à l'armée, comme ils ont affaire à la sécurité, avec les problématiques que cela pose. Les mineurs, les parents, le narcotrafic, la multiplicité d'interlocuteurs. J'allais dire que c'est plus simple pour les armées. Mais néanmoins, dans les armées, ce qu'il faut retenir, c'est la démarche stratégique. Et ça, c'est important, et il faut s'en inspirer.
Frédéric Lauze, est-ce que vous avez eu des retours indiquant que votre livre a été lu en haut lieu, le plus haut?
Alors, je ne sais pas. J'ai eu un retour de M. Retailleau, qui, je crois, l'a lu, il m'a envoyé un message. J'ai eu quelques messages d'hommes politiques, dont certains, je ne vais pas citer les noms, veulent me rencontrer, d'anciens présidents, d'anciens premiers ministres, que je vais rencontrer, puisque je rencontre tout le monde. Donc, il a été lu en haut lieu, il est diffusé. Alors, ma modestie, mes chevilles vont bien, font que je suis pas le seul, mais je vois que je suis parfois un peu pillé, puisque mes idées sont reprises par d'autres, dans tous les domaines. Hein, ça va de criminologues en passant par des politiques. Mais j'allais dire, mais c'est très bien, parce que j'ai pas écrit simplement ce livre pour me faire plaisir, vendre des exemplaires, mais c'est un livre pour pour contribuer au débat et faire des propositions concrètes. C'est pour ça que j'ai fait à la fin, vous avez vu, une trentaine de propositions. Dans la première version du livre, il y en avait 60.
Ah oui.
J'ai dû réduire parce que c'était trop technique, c'était pas très digeste pour la lecture et c'était trop lourd. Mais c'est là que Frédéric Ploquin m'a aidé, grand journaliste. C'est pas à écrire, mais c'est surtout à réduire. C'est un travail redoutable. Et si vous voulez, on a besoin de propositions et pas simplement de propositions. Comment ordonner ces propositions?
C'est pas
mettre des rustines un peu là, un peu là. Non, insécurité, rétablir l'autorité, rétablir la dissuasion judiciaire, et ça doit se faire de façon conjointe. Comme de la même façon, il faut travailler davantage avec les élus locaux, avec les maires, qui ont des responsabilités fondamentales sur la prévention de la délinquance. Et c'est très important. Par exemple, moi, je m'étonne et je m'indigne que la prévention de la délinquance ne soit jamais évaluée. Jamais.
Oui.
Pourtant, il y a un guide sur un guide d'évaluation de la prévention de la délinquance. Et la réponse, ce guide, je l'ai fait avec un préfet.
Oui.
Oui, quand j'étais à Matignon, avec un préfet, on a contribué à faire ce guide qui a été diffusé. Et après, j'ai dit, mais un an et demi après, j'avais changé de poste, j'étais plus à Matignon, j'ai dit, mais pourquoi le guide n'est pas trop diffusé? On me dit, ah bah oui, mais parce que politiquement, c'est gênant, parce qu'en vertu de l'article 72 sur la libre administration, c'est gênant que l'État donne l'impression d'aller évaluer les collectivités territoriales. Je lui dis, mais c'est aberrant. Quand il y a de bonnes politiques publiques, prenons des hauts fonctionnaires des collectivités territoriales et de l'État, allons évaluer ce qu'il y a de bien à Nantes, à Marseille, à Paris, à Lille, à Bordeaux, à Orléans, à Nice, je ne sais pas, à Guéret, à Fort-de-France, voilà, ou à Strasbourg. Mais il faut évaluer. Enfin, c'est complètement fou.
Bien sûr. Oui, voilà.
Et la prévention de la délinquance
n'est
pas évaluée. Il y a des choses très intéressantes qui se font dans des villes d'ailleurs de droite comme de gauche. Et comment reconduire des budgets sur la prévention de la délinquance? Comment être efficace dans un conseil communal ou un conseil local de prévention de la délinquance si on n'évalue pas? Et si on sort pas les bonnes pratiques, et s'il s'agit pas de stigmatiser la gestion politique, ça peut se faire finement. Mais voyez, on est un pays, c'est là que je dis, on est aussi chez les fous.
Oui.
Pas d'études d'impact, on n'évalue pas, pas de coût de la délinquance. De la même façon, la sortie de la délinquance, il n'y a aucune étude. Il y a un chercheur qui s'appelle Marwan Mohamed qui a fait un super boulot sur la désistance, la sortie de la délinquance. Nous, on n'étudie pas la sortie de la délinquance. Pourtant, on a des services de prévention d'insertion et de probation, les SPIP. On a quelques chercheurs qui travaillent, on a des éducateurs qui pourraient faire ça au niveau national. Ce sujet n'existe pas. Or, on sait que 90% des délinquants, d'ailleurs qu'ils soient d'origine immigrée, qu'ils soient immigrés, qu'ils soient français, qu'importe, sortent de la délinquance. Vous voyez, ça, c'est un message intéressant.
Oui.
À l'âge de 25 ans. Alors, pourquoi sortent-ils? D'accord. Est-ce que les connexions neurologiques sont complètement formées, comme disent certains neurologues, psychiatres que j'ai rencontrés, et on a une maturité? Est-ce que c'est la garde à vue ou le passage à prison qui fait que ça a dissuasé les gens? Est-ce que c'est la rencontre du travail, de la religion, de l'amour?
D'une famille.
Parfois, d'avoir un enfant et se dire que... est-ce que certains, tout simplement, se disent « Ah, le système est répressif parfois et j'ai pas envie d'y retourner. » En tout cas, ce qui est intéressant, ça serait d'évaluer ça.
Oui.
Parce que savoir pourquoi les gens sortent finement permettrait de mieux adapter les leviers de lutte contre la délinquance. Et là aussi, en France, on fait n'importe quoi, on le fait pas.
Oui. Il y a aussi la tolérance zéro dont on n'a pas parlé, mais l'heure tourne et je crois qu'on pourrait encore discuter une heure sur votre livre tant il est riche. Je voudrais dire que il est aussi, je l'ai dit en préambule, il est empreint de tendresse quand vous parlez de vos hommes. Donc il y a Pascal, il y a Élodie, il y a votre ami Alain et puis Omer. Voilà, donc des très beaux témoignages et je retrouve un peu votre sensibilité du testament d'Alexandrie dans ce livre. Donc merci infiniment, Frédéric. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous voudriez répondre avant qu'on se quitte?
Je sais pas, quel est le prochain ouvrage?
Quel est le prochain ouvrage?
Alors j'ai envie d'écrire un nouveau roman, mais avant j'ai envie d'écrire un livre sur l'exercice du management dans la police nationale.
Oui.
C'est-à-dire que je suis pas jeune maintenant, même si je me sens jeune.
Oui, vous n'êtes pas
mais,
vieux.
Mais j'ai envie d'écrire un livre sur le management dans la police nationale, c'est-à-dire apporter ma contribution et pour tous les policiers,
oui.
Alors pour ceux qui sont managés, comme pour les managers, alors plutôt commissaires, officiers, mais en même temps, un commissaire, un officier est lui-même manager. Il est manager et
c'est
il est managé.
Ouais. Hein.
Et voilà, et ça sera peut-être un livre là-dessus, si j'en ai l'inspiration, la force. Je pense que je l'ai, mais il faut trouver le temps. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire, et qui aurait du sens au niveau professionnel. Avant peut-être
qui pourrait faire école
à un roman ou ce que j'ai jamais fait. J'ai écrit 3 romans, un ouvrage autobiographique, mais peut-être demain un roman policier. Mais avant, j'aimerais écrire un livre sur le management et apporter des solutions, ma pierre au débat.
Oui,
voilà.
Je comprends.
Sachant que je n'ai pas toutes les solutions et que
non, mais je pense que à travers vos exemples de commissaires, on voit que vous avez quand même su manager avec beaucoup de toujours d'humanisme et ça
j'ai
c'est
essayé.
Important. Ouais, c'est vrai. Mais merci infiniment. C'était un honneur de vous avoir reçu. Et moi,
Merci à vous. Je
conseille vivement à nos auditrices auditeurs de lire ce livre, un ouvrage fort et profondément humain. Merci Frédéric Lose. Voilà, l'économie en direct est terminée. Donc je remercie Francky et Christophe qui nous a rejoints pour la technique. Merci à nos fidèles auditrices, auditeurs. Je sais que vous êtes nombreux de nous accompagner sur EDFM Radio. Vous avez apprécié cette émission, alors n'hésitez pas à en parler autour de nous. Retrouvez son podcast sur le site de la radio EDFM98.fr. Mardi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Belle journée, bon week-end. Et bien sûr, restez branchés sur notre fréquence. Beaucoup d'autres émissions vous attendent. À bientôt.